Cette semaine, on va partir dehors et on va parler des arbres. Et on va parler particulièrement avec vous, Annick Baléry. D'abord, bonjour.
Bonjour, Philippe Subercaz.
J'allais oublier de vous dire bonjour, pardon, Annick. On va parler aujourd'hui, donc, les trognes. C'est la coupe des arbres. C'est la première fois que j'entends parler de trognes.
Alors, les trognes, c'était une façon de mener les arbres qui remonte à très longtemps. Et on appelle ça aussi la coupe en tête de chat. Alors, vous avez certainement vu, on en voit de moins en moins, mais vous avez certainement vu des saules taillés de cette façon-là. Vous avez un tronc qui va être classique, puis au bout, vous avez une espèce de boule qui est... Enfin, c'est sombre. Et puis, vous avez des tas de branchettes qui sortent et qui sont dorées, en fait. C'est magnifique. Moi, je milite pour le retour du sol des vanniers. Alors, le sol des vanniers était cultivé de cette façon-là. Chaque année, on taillait vraiment au ras toutes les branches droites. Et puis, ça repartait de plus belle. Donc, ça donne des branches qui étaient très, très bien pour faire des paniers. Mais pas que. Ça servait aussi à attacher les vignes. Et souvent, à côté des vignes, il y avait des saules qui étaient menés de cette façon-là. Ça donne des liens qui sont très pratiques à utiliser. Gratuits. Ça, c'est pas rien.
C'est pas rien.
Voilà. Et qui ne blessent pas non plus les plantes qu'ils attachent. Donc, il y avait une façon de torsader de façon à ce que ça... Que ça tienne bien la plante. On peut utiliser aussi les ronces de cette façon-là. La ronce, c'est quelque chose de solide.
Oui, je confirme.
Oui, et vous confirmez. Voilà.
Je confirme bien. Ouais. Voilà.
Donc, l'avantage aussi de cette façon de faire, c'est que la couleur reste vive. Si on attend plus longtemps, petit à petit, les branches vont ternir, elles vont devenir un peu plus brunes. Et en coupant régulièrement de cette façon-là, on avait vraiment des branches vraiment jaunes vives. Moi, je trouve ça très, très beau. Il y en a de moins en moins dans les campagnes. Il y en avait souvent à côté des petits canaux d'irrigation. Il y avait le long de ces canaux d'irrigation souvent des espèces de petites écluses que l'on fermait avec une pierre ou une ardoise, et souvent à côté de cet endroit-là il y avait un sol. Voilà.
Alors, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était les trognes.
Alors, les trognes, c'est cette façon de couper, en fait, qui va faire que chaque année, on va récolter ces branches de un an.
D'accord.
Et c'est la cicatrisation qui va faire, en fait, que ça boursoufle à l'endroit où l'on coupe. On coupe toujours à la même hauteur. Et donc, petit à petit, les cales de cicatrisation vont faire qu'on a un tronc qui est tout à fait classique, avec au bout une boule. Alors, c'est quelque chose, que, par exemple, qu'on a pu observer sur la taille de certains platanes.
Hein. D'accord.
Voilà, ce n'est pas toujours une très bonne idée, parce que comme le haut devient très, très lourd, cette partie renflée devient très, très lourde, il y a un moment aussi où le platane, quelquefois, bascule. Hein.
D'accord.
Mais c'était... il y avait plein d'usages pour les trognes. Par exemple, on pouvait cultiver les frênes de cette façon-là. Et en cultivant les frênes de cette façon-là, on pouvait ramasser les feuillages quand l'herbe était rare.
Ouais.
J'ai rencontré hier un monsieur qui me disait que l'année dernière, il avait nourri ses bêtes... avec le feuillage des frênes, parce que justement, l'herbe avait été extrêmement rare l'année dernière.
À cause de la chaleur.
Ben, hein. Il avait fait très très chaud, et que donc tous les jours, les bêtes arrivaient quand ils sortaient le sécateur, ils coupaient le feuillage des frênes, et avec ce feuillage-là, on pouvait nourrir les bêtes. Alors on pouvait non seulement les nourrir avec le feuillage vert en été, mais on pouvait aussi le stocker quand il manquait du foin ou du fourrage. Et donc, on coupait les branches vertes et on récupérait les feuilles. Et ça pouvait servir de fourrage ou, à défaut, quelquefois de litière aussi quand on manquait de paille.
D'accord.
Alors, dans ces usages-là, il y avait aussi tout ce qui pouvait servir aussi à faire des manches d'outils ou pour faire des fagots aussi. C'était une façon d'obtenir des fagots. Donc, les fagots, c'était souvent de l'allumage et c'était destiné aux boulangeries. Donc, on taillait les arbres comme ça, de cette façon-là. Et puis, on pouvait récupérer des fagots. Donc, toutes les branches avaient quasiment la même hauteur. Et on arrivait sur du 1,50 m, 2 m au mieux. Et on regroupait ça. Et c'était quelque chose qui pouvait rapporter de l'argent aussi, parce qu'on pouvait les vendre, les fagots.
D'accord.
Voilà. Il y a souvent ces images-là. Alors, ouais. Dans la crèche, on voit ça. Il y a la vieille avec le fagot sur le dos. Mais ouais. C'était souvent...
Les santons, on le voit beaucoup.
Les santons, c'était une façon de faire du bois. Un bois qui n'avait pas besoin non plus d'être retaillé, puisque les branches étaient droites. On n'avait pas besoin d'enlever les branches secondaires. Et c'était plutôt pratique à utiliser. Alors, dans ce même style, on pouvait aussi, alors ça, c'est plus vraiment des trognes, mais faire des tailles, par exemple, sur les châtaigniers. Et on avait des branches droites qui pouvaient servir aussi à faire des piquets. Mmh. Il y avait tous ces usages-là, donc piquets, manches d'outils, fourrage, bois d'allumage. Voilà,
oui, il y en a qui ont des diamètres assez importants, alors.
Oui. Et puis, bois d'allumage, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les paniers, en fait, c'était vraiment quelque chose qui pouvait être vraiment très, très intéressant.
D'accord. Et donc, cette façon de couper ces branches, ça s'appelle
les trognes, ou on appelle ça les têtes de chat. Alors, quelquefois, dans des villages, je connais un village dans le nord du département, où vous avez énormément de platanes, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, puisqu'il y a la maladie qui arrive là maintenant. Ouais. Et voilà. Mais à ma grande surprise, il y avait des platanes qui étaient utilisés de cette façon-là. Alors, avec un tronc très court, un tronc qui devait faire 1 mètre de haut à tout casser, et au-dessus des branches très droites qui étaient récoltées régulièrement pour faire du bois de chauffage. C'est un excellent bois de chauffage, le platané, avec une maille croisée. Quand vous regardez le bois du platane, au lieu d'avoir des fibres longues et parallèles, comme on voit par exemple dans le châtaignier, il y a des fibres qui sont croisées, ce qui fait que c'était un bois qui est très lourd, et c'est un bois qui servait autrefois à faire des établis, parce que quand on mettait des coups de marteau dessus, ça bougeait absolument pas. Et j'ai été très très surprise. Donc quelquefois c'est presque des monuments de mémoire. Quand on voit ça dans les campagnes, ça dit des choses sur les pratiques qu'il y avait autrefois. Voilà, près de chez nous, en fait.
Oui. En parlant des platanes, oui, c'est vrai que platanes qui étaient très à la mode à une certaine époque pour au bord des routes, et qui sont devenus accidentogènes et qu'on coupe.
Oui, parce qu'ils se jettent sur les voitures, aussi bien connu.
Bien sûr. Ils se déplacent. Hein.
Voilà. Non, après, ce qui peut faire aussi qu'on les coupe, c'est qu'ils peuvent être malades. Et puis aussi, quand on élargit les routes, malheureusement, il y a au moins un côté qui saute.
Alors, c'est bien pratique, c'est vrai, l'été, avec l'ombre que ça procure.
Ah oui, c'est vraiment
sur les routes. Et un petit peu moins sur l'automne, quand ils perdent leurs feuilles, c'est assez pleu.
Alors là, ne me dites pas que vous faites partie de ces gens qui grognent après les arbres parce qu'ils ont des feuilles. Enfin, franchement.
Faire un sol glissant, il faut faire attention.
C'est pas, franchement, c'est pas le problème. Hein. Mais c'est vrai que la maladie les a attaqués. Alors, les platanes, on imagine qui sont là depuis pas très longtemps, mais si, en fait, ils sont là depuis le 18e siècle. Et tous ceux qu'on a sur le territoire, en fait, sont issus d'un croisement de platanes d'Asie mineure. D'accord. Et d'un platane américain. Alors ça, c'est extraordinaire.
C'est la mondialisation depuis très longtemps.
Voilà,
en fait.
Depuis très longtemps. Et en fait, ce sont des hybrides qu'on a pratiquement partout. Et bon, moi, la question que je me posais, c'est si on revenait peut-être à une variété de base, soit l'américain, soit l'autre. Alors, je sais qu'il y en a un qui a la feuille qui est beaucoup plus échancrée. Hein. Est-ce qu'on ne trouverait pas des recours contre la maladie? Je ne sais pas. Enfin, voilà, ça, c'est plus partie de mes questions existentielles actuelles. Et donc, vous avez des châteaux du 18e siècle avec... Alors, forcément, à l'époque, c'était rare. Avec le platane, ce sont des monuments plantés dans le jardin et avec des feuilles qui ne sont pas forcément les feuilles de ceux qu'on voit maintenant.
Quand on voit donc les jardiniers qui coupent donc les branches où il y a les feuilles en automne, hein, pour l'hiver prochain, ils font les trognes.
Oui, voilà.
C'est
oui,
ça.
Oui, c'est souvent... Voilà, pas, alors, il y aura des feuilles si on veut conserver la feuille comme fourrage, mais on peut aussi couper la branche, par exemple, sur un sol dévanier, parce qu'on va faire des paniers et à ce moment-là, on attendra que les feuilles soient tombées et que les cicatrices soient faites pour avoir quelque chose de plus joli. Alors, les sols qui peuvent servir à la vannerie, donc Salix vinimalis, je fais ma savante là. Mais vous avez aussi des sols de toutes sortes de couleurs. Et si vous voulez, moi je pense que ce sont des arbres qu'on pourrait utiliser dans des jardins publics. Ça pourrait être très sympa parce que vous en avez avec du vert fluo, du rouge, du orange, du noir.
D'accord.
Enfin, il y a possibilité de faire une symphonie
de
couleurs assez extraordinaire. Donc voilà. Et j'ai rencontré déjà une dame donc qui a une pépinière spécialisée dans le sol. Alors malheureusement, j'ai pas pris les coordonnées. Mais qui va vous vendre en saison des fagots de sol que vous planterez dans le sol et que vous pourrez voir pousser.
Le sol dans le sol.
Voilà, le sol dans le sol.
Sol.
Et qui vend ça en fagot, moi je trouvais ça génial. Alors les couleurs, on se croirait dans un échantillonnage de déco. Il y a toutes sortes de couleurs qui sont plus belles les unes que les autres. Et à ce propos, vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle les structures en sol vivant, c'est-à-dire que vous plantez à intervalles réguliers. Par exemple, vous faites un rond dans le jardin avec ces branches de sol. Et quand ça pousse, vous allez les tresser et vous pouvez faire une cabane pour les enfants. Et ça, c'est absolument extraordinaire.
Et des exemples, vous devez en avoir des centaines.
Un dernier mot.
Ah, un dernier mot.
Je ne vous lâcherai pas comme ça.
Non, la cloche n'a pas sonné encore.
Le sol, c'est ce qui a donné en fait l'acide salicylique et l'aspirine.
D'accord.
Alors, ça a été une découverte tout à fait fortuite. C'est un médecin anglais au XVIIIe siècle qui s'est référé à la théorie des signatures qui avait été un peu abandonnée. Alors, la théorie des signatures disait que Dieu avait mis sur les plantes des signes qui montraient à quoi elles allaient servir. Par exemple, la noix ressemblait à un cerveau et allait servir à soigner les problèmes de tête. La pulmonaire...
Ah, parce que ça ressemble au cerveau, oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, la pulmonaire, avec ses taches, faisait penser aux poumons. L'hépatique, c'était une plante qui avait une feuille qui avait les trois lobes comme le foie. Et donc, voilà, on faisait des... Alors, il y a des fois où ça a été un échec, mais il y a d'autres fois, par tâtonnement, ce qu'on appellerait maintenant tâtonnement expérimental, on trouvait des médicaments. Et alors, ce qui est assez troublant, c'est que cette noix, bon, qu'on avait un peu dédaignée, il y a des recherches japonaises récemment qui ont montré qu'effectivement, la noix, c'était excellent pour le cerveau. Enfin, bon, passons. Donc, au 18e, c'était quelque chose qui avait été un peu abandonné, très en vogue au Moyen-Âge, un peu moins à la Renaissance, et puis bon, après, un peu oublié. Et toutefois, un médecin anglais avait pensé que dans les zones où il y avait des fièvres, c'est-à-dire les zones de marécage, où il y avait la malaria, en fait, toutes sortes de problèmes... On allait forcément trouver le remède sur place à tous ces soucis. Et il a eu l'idée de faire macérer de l'écorce de sol. Et il a réussi à soigner la fièvre comme ça.
Ouais,
elle n'est pas belle, la vie.
Elle n'est pas belle, effectivement. Merci beaucoup à Annick Baléry pour cette chronique et qui nous apprend, bien sûr, comme chaque semaine, plein de belles choses. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.